RMC, cours numéro 1.
Salut à tous, nouveau numéro de cours numéro 1. Et ça y est, on a les premières affiches des demi-finales à Roland-Garros, femmes et garçons. Et avec Sarah Pitkowski qui est avec nous et Eric Salio, on va débriefer tout cela. Salut Sarah.
Salut les garçons, salut à tous.
Salut Eric.
Salut la fille et salut à tous.
Bon, on a encore vécu une journée de malade avec un match de malade. Tu t'es à peine remis de ton match sur le Suzanne Lenglen hier, Eric, que sur le central, on a eu un petit chef-d'œuvre qui n'a duré que 3-7, 2h44. Mais là encore, une surprise. João Fonseca, le joyau qui avait sorti Novak Djokovic, qui avait sorti Casper Ruud, eh bien, prend la porte en quart de finale, battu par Jakub Mencik, 6-4, 6-3, 7-6, après avoir eu quoi ? 7 balles de match au total ?
À la 7e balle de match, il a rendu les armes, le Brésilien, mais ça a été un match fabuleux parce que le grand public ne le connaissait peut-être pas, Jakub Mencik, mais ce mec, il est brutal, mais il y a de la finesse. Et puis, il a des nerfs d'acier parce que Sarah, le dernier quart d'heure de cette rencontre, il est juste époustouflant. Hein.
Oui, le dernier quart d'heure, je dirais même depuis 4-3 en fait, parce que l'un comme l'autre avait des balles de break sur le service de l'un et l'autre, mais la violence des coups, c'était que des coups gagnants. Donc c'est vrai que Mencik, pour moi, c'est Iceman déjà, et c'est Iron Man aussi. C'est-à-dire qu'il n'a rien fait paraître sur son visage, parce que je pense que l'agacement doit monter. Et puis, mais il est d'une... Je sais pas, c'est musclore dans le sens. Il frappe, mais le bruit, parce qu'il faut savoir que nous, quand on regarde le match, on est dans la cabine. Mais on entendait le bruit de la balle, d'une violence.
Il n'y a que Sinner qui avait à peu près ce côté, ce bruit sourd.
Oui, mais peut-être que Mencik, on utilise la... que Sinner, on a l'impression que la balle va un peu plus vite. Là, c'est très lourd. Vraiment, très impressionnant, au point de se dire, mais un Mencik qui joue comme ça, contre Zverev, ça va cogner, ça va être un match de toute beauté, cette demi-finale.
Pour revenir sur le match, Eric, il y a 2-7 où Mencik est en contrôle total. Fonseca déjoue totalement. Et il y a ce troisième set. Fonseca n'a jamais eu de balle de set. Il y a eu pourtant des breaks. Et on a senti quand même qu'il y avait une ouverture pour le Brésilien. Mais il n'a jamais pu la saisir. Il n'avait peut-être pas les armes physiques et techniques.
Ouais, je pense qu'il manquait un peu de fraîcheur. Et c'est ce qu'on craignait avant le match pour lui. Parce qu'il restait sur deux matchs très durs, à la fois physiquement et émotionnellement. Parce que Djoko est... Et Casper Ruud, faut se les farcir, mais il s'est battu. Moi, j'ai adoré son courage parce qu'il sauve 6 balles de match. Parce que la première balle de match, elle survient, j'ai tout noté, parce que je me disais, là, il se passe un truc. La première balle de match, il la sauve à 23h01. Et la dernière, elle arrive à 23h17. C'est-à-dire que pendant 16 minutes, il s'est battu comme un chien pour retarder l'échéance. Et c'était admirable. Et le public a adoré cette rencontre, même si ça se termine en 3-7-0. Mais... rien que pour les émotions de ces 16 minutes, ça valait le coup d'être là. Et chapeau à João Fonseca, parce que voilà, il a quand même marqué les esprits. Et on a une pensée pour Guga Kuerten, qui restera donc le dernier Brésilien à avoir gagné Roland. Mais Mencik, quoi, il a marqué les esprits. Et j'aurais bien voulu être une petite souris pour être dans la chambre d'hôtel de Sacha Zverev, pour voir comment il a vécu cette fin de match, parce que maintenant, il sait à quoi s'attendre. Attention, hein. On va en parler. Il a déjà joué Mencik, c'était le 28 avril à Madrid, donc conditions particulières à altitude. Mais ça avait été très très serré, 6-4, 6-7, 6-3. Mais là, dans des conditions lentes, puisqu'on a joué avec le toit, avec une humidité, on a chopé quelques orages. D'ailleurs, on a une pensée pour les gens qui ont fait des places sur la tribune à gauche, là, près de la tribune de presse, parce que le toit n'est pas étanche, si on peut dire. Il y a des ouvertures. Ils ont pris la flotte, les pauvres gens.
Le vent ramenait la pluie. Hein.
Et heureusement, ils avaient pris des parapluies. Sinon, tu terminais, mais lessivé.
Pour revenir sur Mencik, qui a lavé, si je puis dire, João Fonseca, est-ce qu'on est surpris ? C'est un joueur qui s'était retiré d'un huitième de finale contre Novak Djokovic à l'Open d'Australie, blessé, douleur abdominale. Est-ce qu'on sentait qu'il avait ce tennis ? Il commençait à tutoyer, il a été jusqu'à... On a regardé top 12, enfin 12e mondial récemment. Est-ce qu'on arrivait à percevoir, Sarah, qu'il avait ce genre de prestation possible ? Un dernier carré en Grand Chelem, là maintenant ?
En tout cas, on savait qu'il avait les qualités de tennis pour jouer sur un match comme celui-là. mais il faut quand même rappeler que son parcours dans Roland-Garros, de ce Roland-Garros, c'est quand même assez salé. On l'a laissé au deuxième tour contre l'Argentin Navonet. Il gagne, il tombe sur le court, il est allongé sur le dos et il fait des grands gestes avec ses bras. Il ne peut plus se relever. On était donc dans la semaine d'ultra chaleur, 40 à l'ombre, et il faisait des grands gestes. Son adversaire vient le féliciter en passant, mais il ne comprend pas qu'en fait, il ne peut plus bouger. Il a été relevé, il est sorti du court en fauteuil roulant. On s'est dit, mais jamais il va récupérer, d'autant plus que la chaleur a continué jusque samedi. Eh bien, il est encore là. Il est encore là. Et vraiment, c'est pour ça que je dis que c'est Iron Man. C'est-à-dire qu'il ne plie pas. Il ne plie pas. Donc, il doit avoir une condition physique incroyable. Et oui, sur le plan tennistique, on savait. Et il, je ne dis pas de bêtises. Menchik, il a déjà battu Sinner. C'est Menchik qui a battu Sinner.
Alors là, Eric réfléchit.
Il réfléchit, non ?
Je ne sais plus. Oui, à Doha ou Dubaï.
Il s'est déjà fait le scalp de Sinner, je me dis. Donc, oui. Donc on savait qu'il avait les capacités sur un match. Mais demi-finale de Grand Chelem, c'est il faut tenir sur la longueur. Non, quoi.
Je crois qu'on ne l'a pas dit. C'est un mec qui s'est révélé l'an passé à Miami.
Oui.
Quand il cueille le Masters 1000 en battant tout le monde, et notamment en finale Novak Djokovic. Mais souvenez-vous, Novak, il avait une infection à l'œil. Donc, ce n'était pas du grand Novak en finale. Mais voilà, c'est un Tchèque. Enfin, ce joueur donc, avait... à un Masters 1000 à son palmarès, et c'est pas rien, parce qu'on sait que des mecs comme Sinner, Alcaraz ne laissent pas grand-chose aux autres. Mais ensuite, il n'a pas vraiment confirmé, parce que quand on regarde son activité en 2025, ce n'est pas exceptionnel. Et puis, tu l'as dit, en Australie, il a une blessure aux abdos. Monte Carlo, je me souviens très bien, il était sur site et il se retire parce qu'il avait un problème au pied. Donc, en fait, il s'est montré très discret sur la saison sur terre battue. Il n'était pas du tout parmi les prétendants au titre.
Non, alors pas du tout, loin de là. Mais en fait, il a 20 ans, il va avoir 21 ans. C'est-à-dire que l'année dernière, quand il gagne, il a tout juste 19 ans au final. Donc, c'est quoi ? Il gagne un Master Mid à l'âge de Rodard ou de Fonseca. Donc, je pense qu'il y a quand même un moment de digestion. C'est-à-dire que ton ascension... pour qu'elle soit si linéaire, tu t'appelles Carlos Alcaraz, quoi. Voilà. Et encore, Alcaraz a eu quand même pas mal de blessures très jeune. Je pense qu'une ascension sans plateau, à un moment où je pense que soit il faut que ton corps absorbe les choses, soit il faut que tu digères ton niveau de jeu et puis tes victoires, je pense que ça prend un peu de temps. Et là, on voit une forme de maturité. C'est-à-dire qu'il n'a pas paniqué. Il voit passer.
Il aurait pu exploser, voilà.
Il voit passer quand même, surtout une qui rate sur un smash, mais on va dire qu'il voit passer 5 balles de match, parce que Fonseca, mais qu'est-ce qu'il les a joué ces balles de match ? On a tout eu, on a eu des volées, on a eu des services volés sur seconde, on a eu des accélérations longue ligne, on a eu des passings, on a tout eu pour sauver les balles de match. Et on n'a rien vu sur son visage, donc je pense qu'il a quand même les facultés des très très grands.
Ce qui frappe aussi Sarah et Arnaud, c'est qu'il mesure 1m96 et on a été frappé par sa qualité de déplacement. Parce que parfois, il y a eu des amortis de Fonseca. Tu te dis, quand elle est lâchée la balle, tu dis, il l'aura pas. Et le mec, il a une main extraordinaire. Les contre-amortis, d'ailleurs, la balle de match résume un peu ça. C'est un garçon qui est élevé... faut savoir qu'en Tchéquie, il est né à Prostějov, c'est peut-être un hasard, mais Prostějov, c'est le grand centre d'entraînement. C'est là que les Tchèques préparent leur relève. Et il y a beaucoup de terre battue, parce qu'il y a beaucoup de compètes de jeunes qui se déroulent à Prostějov. Ils ont d'ailleurs un toit, donc ils peuvent s'entraîner en terre battue indoor. Et il adore la terre. Et ça se sent. C'est un mec qui pue le tennis sur terre. Donc, non, chapeau à lui. Il succède à un certain Berdych. Tu as connu Sarah. Et c'est vrai que c'est un peu l'héritier de Berdych. Revers à deux mains, ça cogne fort. Mais je trouve qu'il y a une touche supplémentaire que n'avait pas Berdych.
C'était en 2010 face à Robin Söderling qui disputait derrière sa deuxième finale perdue face à Rafael Nadal. Puisque celle d'avant, c'était Roger Federer. Parlons quand même de João Fonseca, qui n'a peut-être pas, sur ce quart de finale, montré la même qualité que face à Djoko, que face à Ruud, ou en tout cas, Sarah, trop d'intermittence dans le jeu du Brésilien. On n'a pas retrouvé une flamme très vive. On a eu des petites flamèches comme ça, mais on n'a pas senti le Brésilien presque à la hauteur de ce quart de finale.
Bah, sur les derniers jeux, sur les dernières 20 minutes, si, mais c'est vrai que je pense qu'il a aussi peut-être un petit peu puisé dans les réserves. Hein. Il a joué quand même deux matchs en 5-7, mais il est surtout revenu de 2-7-0 pour gagner ces deux matchs en 5-7. Et ça use moralement. Donc je pense que voilà, il était peut-être un petit peu touché. Mais quand même, on a vu aussi que... Enfin, en tout cas, on va retrouver Fonseca très haut et très vite. Là, je pense qu'il est parti.
Il faut qu'il arrête son mode diesel. Il menait 2-7-0 contre Prismic sur le 14, 2-7-0 contre Joko. Tu le payes à un moment donné, Eric.
Oui, bah, enfin, je vous trouve sévère. Il se fait agresser, quoi. Il se fait rentrer dedans, quoi, comme peu de mecs peuvent le faire sur le circuit. Parce que un mec comme Casper Ruud, c'est pas aussi brutal que Mensik, vous êtes d'accord avec moi. Casper, c'est un mec qui se crowlift, sa balle effectivement est très gênante, mais Mensik, lui, c'est du winner, quoi. C'est service coup droit, et puis t'entends, il est intelligent, il vient au filet, donc il abrège les échanges. Non, il s'est fait marcher dessus. Mais non, il n'a pas baissé la tête, quoi. Il n'attendait pas le troisième uppercut final. Non, il s'est battu avec beaucoup de courage. Ça n'a pas suffi. Mais ça y est, on avait beaucoup dit que Fonseca,
on avait peut-être, pas trop.
Ouais, est-ce qu'il était surcoté ? Bon, voilà, on a la réponse. Ouais. Quand tu bats Joko, quand tu bats Casper Ruud, c'est que tu as la possibilité un jour d'aller chercher un grand chelem. Bon, ce ne sera pas cette année. Parce que bon, la marche était un peu haute et effectivement, dans un grand chelem, il faut savoir s'économiser. Il n'en a pas été capable. Peut-être que le match contre Prisnik où il prend un déficit de 2-7 et il lui coûte cher au final. Parce que on le sait, hein, c'est une bataille contre le réservoir et là, il n'y a plus beaucoup d'essence. Moi, ce qui m'intéresse aussi, et on va en parler, on va bifurquer sur Zverev, c'est que là, maintenant, Mensik, il a deux jours pleins pour récupérer, pour préparer son match contre Zverev. Et franchement, cette demi. Alors, c'est vrai. Mensik, ça parle pas beaucoup aux gens, mais ceux qui ont aperçu le match, ils ont dû se dire, c'est quand même un sacré client ce tchèque.
Alexander Zverev, Sacha Zverev, parlons-en. Il s'est imposé face à Rodar l'Espagnol, 7-6, 6-1, 6-3. Il était mené 5-2 dans le premier set. Et alors là, on a senti l'Allemand piqué. J'ai envie de dire, Sarah, il a fait un statement, comme on dit. Il a mis le point sur les i et on tient peut-être enfin le match référence, en tout cas celui avec le plus de certitude, le plus complet, le plus clinique peut-être de Sacha Zverev, le match le plus clinique depuis le début de la quinzaine.
En tout cas, un match joué très sérieux de la part de Zverev. Et moi, je sentais qu'il en avait encore sous le pied. Hein. C'est-à-dire qu'il joue, mais tu sens qu'il peut encore élever son niveau de jeu. Et c'est vrai que Zverev reste bien dans son match. On sent qu'il ne s'éparpille pas. Et je pense qu'on a aussi ce même Zverev qui se présente en salle de presse. Hein. Il faut vraiment rester dans le présent parce que finalement, la terre entière et tout le monde le voit favori. Et c'est normal. C'est le statut qui lui incombe aujourd'hui. Et c'est vrai qu'il a une régularité dans les demi-finales de Grand Chelem. Ici même, hein, on est à 5 en 6 ans. Donc, il y a une régularité. Et aujourd'hui, l'histoire voudrait que cette régularité soit récompensée. Cependant, ben, il reste encore deux matchs. Et il faut les jouer, les matchs. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on n'a pas un Zverev attentiste. Parce qu'on sait qu'il a, malgré sa grande taille, un peu comme Mensik, il a un très, très bon déplacement, une très bonne couverture de terrain. Donc, il pourrait s'en contenter. Mais en fait, là, il gagne ses matchs en étant agressif. C'est-à-dire que pour aller gagner un grand chelem, il faut aller le gagner sur le terrain. Il faut être agressif. Et la prestation qu'il livre là, on sent qu'on a un Zverev qui va de l'avant, qui va chercher quelque chose. Et il faut absolument qu'il reste dans cet esprit-là, parce qu'il n'y a que comme ça qu'il pourra éventuellement aller chercher le grand chelem qui manque à sa carrière et qui, raisonnablement, devrait récompenser sa carrière et sa régularité.
Oui, parce qu'on a un Rodar qui est arrivé avec les dents qui rayaient la terre battue. On l'a senti aussi agressif et il a éteint le jeune Espagnol.
Ouais, mais je crois que vous serez d'accord avec moi. On n'a pas besoin des datas pour constater que la balle de Mensik va beaucoup plus vite que celle de Rodar. Ça, je pense qu'on est unanime là-dessus. Et c'est là que se situe, à mon avis, le danger pour Sacha. Parce que Rodar, il lui a laissé le temps de s'organiser. Et c'est vrai qu'avec son expérience, il a absolument bien géré le petit mauvais départ. Il est passé de 2-5, bon, ça s'est joué au tie-break. Autre info intéressante, je suis allé puiser dans mes stats, il a gagné les 12 derniers tie-breaks qu'il a disputés à Roland-Garros. et je vous le donne en mille, c'est quoi, c'est lequel le tie-break qu'il a perdu, le dernier tie-break qu'il a perdu, Sarah?
Qui? Zverev à Roland Garros?
Je le sais, on en a parlé, donc je te laisse.
Il s'est
passé un truc là-bas.
Ah, bah oui, ok, c'est quand il se fait la cheville, voilà. Quand il se fait la cheville face à Rafael Nadal.
C'est le premier set.
Là, c'est le tie-break qu'il a perdu.
Le dernier tie-break qu'il
perd.
Ouais, le premier set. Okay. Ensuite, le match a été stoppé à cause de la blessure au milieu du tie-break.
Il n'a plus jamais perdu un tie-break à Roland Garros. Mais oui,
Ah non. Alors là, je ne te permets pas, Sarah.
Mais c'est scandaleux ce que je viens d'entendre.
Monsieur Salio, je vais vous défendre parce que je le vois avec ses notes, un fichier Word avec tabulation et compagnie, mais d'une précision.
Je ne sais pas faire tabulation.
Ah bon, mais c'est parce que c'est bien centré, voilà.
Pardon, oui.
C'est ça veut dire bien centré, tabulation. Tu vois,
non, je peux vous dire que les fiches. Et aujourd'hui, petit événement, il a créé la fiche Yacoub Mensik.
Ah oui.
C'est vrai. Je sens les choses. Et Arnaud me dit, mais Eric, quel est ton critère pour que tu crées un fichier? Je dis, en général, il faut qu'il soit top 10. Mais là, je sens que ce mec-là, il va falloir le surveiller de près. Non, Zverev, il va se faire agresser vendredi.
Ah, oui.
Il va se faire agresser. Donc, on va voir comment il va gérer tout ça. Mais c'est vrai qu'il a une arme extraordinaire aussi, c'est son service.
Oui.
Il a une capacité pour se protéger qui est fabuleuse.
Il est capable d'enrouler et de jouer haut avec son coup droit. On sait que son revers long ligne et son revers croisé sont magnifiques, mais il est aussi capable d'enrouler et de jouer assez haut avec son coup droit. Et ça gêne quand même. C'est le jeu qu'il faut pratiquer sur terre battue.
Mais on a vu, et c'est l'un des points clés, Mensik, c'est pas la puissance qui le fait forcément vaciller, parce qu'on a vu Fonseca envoyer des parpaings, et Mensik remettait tout.
Oui, mais après, il y a de la construction d'un point. Après, il y a le fait d'avoir un joueur très agressif qui pourrait venir au filet. Et Zverev le montre aussi. Il est très, très, très habile au filet. Donc, ça va être intéressant de voir les premiers jeux dans le rallye de fond de cours, qui va prendre l'ascendant. Et puis après, finalement, est-ce que Zverev va ajouter en plus l'agressivité au point de venir conclure au filet et de venir aussi faire des services volés? Parce que je pense que du fond de cours, il va y avoir match. Il va y avoir match.
Est-ce que c'est pas le match le plus compliqué celui de vendredi? Parce qu'on n'arrête pas de dire ouais l'autre tableau c'est faible, c'est faiblard maintenant.
Ouais.
Donc est-ce que c'est pas la finale avant la lettre?
Ah mais c'est certain. Non, c'est certain. C'est la finale. En tout cas, c'est ce qu'on a dit. On a répété, je crois, toute la journée. Le vainqueur de Roland Garros, il se situe de ce côté-là du tableau. C'est entre ces deux-là.
Alors vu toutes les surprises, Sarah, je ne prends au plus.
Non mais toutes les surprises, on est d'accord. Mais
Félix et les Italiens, non. Hein.
Non mais on s'est pas trompé sur Zverev. On savait qu'à partir du moment où il y avait plus Sinner et toutes les têtes de série qui tombaient, le chemin se dégageait pour Zverev. Et pour l'instant, il tient la route.
Et donc la finale Berrettini contre Mensik sera à suivre. C'est possible. Ce Roland Garros, il se passe des dingueries tous les jours, Sarah.
Oui, mais alors attends, tu m'as coupé dans ce que je voulais dire. J'arrive plus à me souvenir.
C'est pas grave.
Il y a un autre signe. Moi, je suis très superstitieux. Tu sais que c'est Adriano Panatta qui va remettre le trophée, donc il le remettra en italien. Ça semble écrit, non?
Oh là là, c'est terrible, ça t'imagines.
Donc, ce sera à suivre vendredi, cette première demi-finale. À noter que Mensik et Zverev ont éliminé quand même trois Français sur leur passage. Droguet pour Mensik, Bonzi et Quentin Lys pour l'ami Zverev. Sarah m'a fait signe, elle a retrouvé.
Si, ce que je voulais dire, c'est que même s'il y a deux jours de repos avant cette demi-finale, le temps passé sur le terrain est quand même vraiment à l'avantage de Zverev. Il a passé, il faut qu'on calcule, mais pas loin de deux fois plus de temps, Mensik. Donc, même si tu as deux journées de repos, à la fin, les calculs sont importants. Donc physiquement, l'avantage est aussi du côté de Sacha Zverev.
Toujours un seul set perdu, l'ami Zverev, contre Quentin.
Alice.
Qu'on n'oublie pas. Les filles, on connaît la première affiche de ce tableau féminin, puisqu'il va opposer Marta Kostiuk, qui a pris le meilleur, sur Elina Svitolina en 3-7, 6-3, 2-6, 6-2. Et juste avant, Mira Andreeva retrouve le stade des demi-finales. C'était le cas il y a deux ans. L'année dernière, elle avait été battue en quart par Louise Boisson. Elle était expéditive, moins d'une heure, 56 minutes face à la Rouen Sirstea, 6-0, 6-3. Solide Marta Kostiuk. On est un petit peu déçu peut-être pour Elina, mais Kostiuk a largement mérité sa qualification.
Ah oui, franchement, Marta Kostiuk là, Elle joue, mais on sent que c'est une joueuse qui est en confiance. Elle a gagné le tournoi de Rouen, elle a gagné le tournoi de Madrid et elle se présente à Roland-Garros avec que des victoires sur terre battue. Et tu le sens parce que dans ses décisions, dans ses choix, on sent qu'il y a de la confiance. Parce que quand tu as de la confiance, tu tentes des coups et ça reste quand même à l'intérieur du court. Mais ça a été une belle bagarre. Franchement, elles nous ont offert une très, très belle bagarre. Ça a plongé un peu à 3-2 au troisième ou quand Svitolina se fait breaker, mais vraiment on a eu très beau tennis féminin, bien construit, entre puissance, entre utiliser vraiment toutes les zones du court. En tout cas moi j'ai pris beaucoup de plaisir à voir cette bagarre. Après j'aurais aimé pour la belle histoire que Svitolina le remporte, mais franchement Kostchouk, c'est un tennis en pleine confiance. C'est un tennis en pleine confiance. Et je l'avoue, franchement, face à Andreeva, j'ai peur qu'elle l'étouffe. J'ai peur qu'elle étouffe Andreeva. Et comme elle sait faire un peu plus de choses dans son tennis, et notamment les amortis, venir au filet, prendre des balles à contre-temps, je trouve qu'elle a un jeu plus complet. Comme elle est en pleine confiance, je vois pas Andreeva s'en sortir.
Alors Gaël, mon fils était présent dans la boxe. Bon, c'est peut-être pas sûr, pas superstition qu'il revienne la prochaine fois. Gaël, ça a été expéditif pour Miranda Andreeva face à Sirstera. Il n'y a pas eu de match. Comment tu vois aussi là cette première demi-finale, Eric, entre Andreeva qui, quand même, plus les années passent, plus elle prend aussi en maturité. Elle pète moins un plomb sur le terrain.
Ah oui, je voulais aborder ce sujet parce que l'an passé... Elle avait coincé contre Louise Boisson et on se souvient de sa petite crise de nerfs. Elle avait largement dominé le premier set. Je crois qu'elle avait eu balle de set et puis Loïs était revenu et avant de prendre l'avantage. C'est vrai que le public n'avait pas aidé Miranda Andreeva et c'est un élément important. Mais je ne suis pas totalement en phase avec ce que dit Sarah. Je pense que Miranda Andreeva sait faire plus de choses que Kostchouk. Et je pense plutôt que la différence, ça peut être sur le plan physique parce que moi, ce qui me frappe, et c'est une athlète, Kostchouk, elle a fait de la gym quand elle était plus petite. Oui. Tu sens que c'est une fille qui est dure au mal. Je n'ai pas ce sentiment quand je vois jouer Andreeva. Andreeva,
elle est plus à l'économie.
Ouais, c'est un style de jeu totalement différent. Alors...
Mais plus émotive, tu es d'accord qu'Andreeva, elle est beaucoup plus émotive que Kostchouk.
Ça, j'en conviens. Mais Andreeva est capable de bomber en coup droit, de disséder des petits amortis, de jouer des petits slices pour couper le rythme. C'est en cela que je dis qu'elle sait faire peut-être plus de choses. Kostchouk, c'est plus un jeu traditionnel, mais elle fait exploser ses adversaires parce que
moi,
physiquement...
Je trouve qu'elle utilise bien toutes les zones du court. Et en fait, peut-être que ce que j'aime beaucoup aussi chez Kostchouk et que peu de filles savent faire, c'est en fait dans les échanges de construction, ces balles, elles coupent les lignes de couloir. C'est-à-dire qu'elle arrive très vite à écarter le jeu. Et c'est vrai qu'en général, ça joue plutôt droit. Et effectivement, elle demande à ses adversaires de faire un effort. Et donc, en fait, elle s'ouvre le court plus facilement. Donc, c'est vrai que ça lui offre, en fait, finalement, plus de possibilités. Quand tu ouvres le court, t'as plus de choix après. Et c'est ce que j'ai bien aimé aujourd'hui de Kostchouk et que je trouve qu'elle maîtrise très bien.
Est-ce qu'on n'a pas le sentiment qu'on risque peut-être de voir Andreeva être un peu plus submergé par l'enjeu et de voir une Kostchouk qui est lancée comme un frelon, comme dirait Vincent Moscato, Andreeva qui cherche sa première finale de Schlem aussi, on lui promet aussi une très belle carrière et il y a cet enjeu-là aussi qui te rattrape à un moment donné jeudi.
Oui, c'est possible. Après, elle est aussi cornaquée et coachée par Conchita Martinez. Et le but de Conchita Martinez, c'est aussi d'apporter son expérience, d'essayer de remettre en perspective les matchs, les ambitions qu'on veut y mettre, le poids des attentes. Donc peut-être qu'elle est encore pas tout à fait mûre pour ça, mais en tout cas, elle a la bonne personne à ses côtés pour l'amener à gérer ce type de situation. Parce que les demi-finales, c'est pas en jouer une, c'est d'être systématiquement en demi-finale et d'aller chercher les finales. Donc, à voir. Voilà, à voir. Un match à voir.
André.
Je mets quand même un billet sur Kostchouk, moi.
Oui, c'est pas mal.
Et attention, elle a dit que si elle était en finale, oui. Non, que si elle gagnait, on avait le droit au backflip.
Oui, au salto arrière.
Salto arrière.
Ça pourrait être pas mal. Attention quand même, la réception sur terre battue, ça peut faire mal si on...
Elle l'a fait à Madrid quand elle a gagné. Hein.
Elle l'a fait, mais attention, la terre parisienne, c'est autre chose. On le sait bien ici. Et donc, rendez-vous jeudi pour cette première demi-finale. On aura l'affiche demain de la deuxième demi-finale féminine, puisque cela opposera avec sur le cours central Kalinskaya face à Chwalinska. Là, Eric nous l'a annoncé. Et moi aussi, je le sens bien. La petite polonaise, elle va continuer.
Ah ben, les conditions météo me renforcent, j'ai envie de tenter un coup, je vous l'avoue, parce que j'ai été bluffé par le QI de cette joueuse. Elle va pourrir la vie de Kalinskaya, parce que Kalinskaya, en cadence, il n'y a pas beaucoup d'équivalent, et c'est comme ça qu'elle a battu Potapova, et Potapova a joué comme Kalinskaya, mais elle le faisait juste un petit peu moins bien. Là, elle ne va pas jouer en cadence, notre amie Chwalinskaya, parce qu'elle va commencer à bomber avec son coup droit, elle va bouffer du slice, Kalinskaya. Non, en plus, la terre est lourde, ça va peut-être jouer en indoor, on va voir les météos. Alors maintenant, j'ai des doutes quand même, parce que c'est tout nouveau, tout beau pour la polonaise, et ça peut être un frein. Mais non, je suis curieux de voir ce match. Et l'autre, alors le...
Sabalenka, Schneider en deuxième rotation.
Bon. De ce qu'on a vu, la prestation de Sabalenka qu'on a vue contre
Osaka,
on a senti... Alors, est-ce que c'était la crainte d'Osaka? Mais je l'avais vue rarement aussi concentrée et aussi impliquée. Et puis surtout, mais le service, les 12 aces en 2-7. C'est-à-dire que là, elle a sorti l'armada au service. Ouais, je pense que ce sera à sens unique. Et puis, elle va tout faire pour que ce soit à sens unique. Parce qu'elle en joue aussi, Sabalenka. Elle roule des mécaniques. Elle met la pression un peu comme faisaient les Serena Williams. C'est-à-dire que...
Je suis la patronne.
Ouais, c'est-à-dire que... tu sais, quand elles s'attendent toutes les deux dans le couloir, eh bien, tu sens celle qui est en train de bomber le torse et de montrer que c'est elle, la patronne. Eh bien, elle le joue aussi comme ça sur le terrain, Sabalenka. Et ça joue. Elle impressionne. Elle impressionne parce qu'elle frappe et elle crie fort, donc ça impressionne.
Et puis les deux derniers quarts de finale masculins, Félix Auger-Aliassime face à Coboli, et puis en soirée, Berrettini-Arnaldi.
C'est les championnats italiens en fait.
Oui, exactement, il y a les championnats de France à l'automne ici sur le stade de Roland-Garros, on fait un peu les championnats italiens avant l'heure. Hein.
Faut que je vous parle de mon expérience personnelle, parce qu'hier dans le podcast, mais c'est vrai, on n'a pas eu le temps d'en parler, puisqu'on l'a dit pendant le podcast, on enregistrait alors que ça jouait sur le Linglen entre Arnaldi et Tiafoe. Hier, j'étais un peu énervé pour des raisons personnelles, et à la fin du podcast, j'ai dit à Julien Taxis, écoute, je vais me détendre, je vais aller sur le Linglen. Donc je suis arrivé sur le court au début du quatrième, il y avait 2-7-1
pour Tiafoe,
et j'ai passé un moment merveilleux. Et je pense qu'on était 5-6 000 personnes parce que le Roland-Garros avait ouvert le stade aux possesseurs de billets du Central. Donc les vrais passionnés qui avaient encore envie de voir du tennis se sont dirigés vers le cours Suzanne et c'était un moment magique. Ça s'est fini à plus d'une heure du matin. Il y a eu des échanges à couper le souffle. J'ai de la peine pour Tiafoe parce qu'il a mené 2-7-1, 4-1, balle de 5-1 et il n'est pas parvenu à le faire. Et d'ailleurs, il n'y a pas un Américain ni une Américaine en quart à Roland.
C'est pas d'Espagnol.
Pas d'Espagnol. C'est une petite claque. Hein, ça peut arriver. Hein, il n'y a pas que la France.
Pas de Français non plus.
Ouais. Non, mais franchement, j'ai passé un moment merveilleux. Je suis rentré chez moi. J'avais des étoiles dans les yeux parce que je me dis, ce sport est merveilleux. C'est fabuleux. Et j'ai une pensée pour Stephen Brun, qui était aussi en tribune présidentielle et qui a quitté le stade à 2-7 partout. J'ai fait un pouce en bas en disant « t'aimes pas le tennis ».
C'est très Moscato Show, ça, de partir.
Mais c'était
avant la fin.
Arnaldi, c'est un joueur assez exceptionnel. Il pue la terre aussi, ce garçon. Il a eu une saison difficile parce qu'il avait des problèmes au pied. Et le derby contre Berrettini s'annonce assez spectaculaire, je pense, parce qu'il y aura une opposition de style. Berrettini, c'est un peu c'est le marteau, hein, c'est son surnom. Il va lui faire très mal avec son coup droit. Mais il a une science de jeu. Arnaldi, il a une paire de jambes absolument incroyable. Le mec, on me dit que c'est le mec le plus souple du circuit avec Djokovic. Il est capable de faire des figures de gymnaste assez improbables. Maintenant, vous avez vu la stat? Alors, je n'ai pas le chiffre en tête, mais ce n'est jamais arrivé qu'un joueur aborde un quart de chelem avec autant d'heures passées sur le court. C'est le record du monde. On n'a jamais vu ça. Et ça, il peut le payer face à Berrettini. Quant à Coboli, eh bien, il va gagner parce qu'on aura un Italien en finale, je vous l'annonce. Là, 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 La, 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 la.
C'est bien, il peut chanter sur le central, il n'y a plus d'échange. Contrairement à une certaine soirée récemment où Eric a un petit peu hurlé aussi quand le PSG avait gagné, je crois, tout simplement, la Ligue des Champions. Deux petites infos, on a démarré tennis fauteuil. Xenia Chasto a sorti une tête de série en simple dame, Vankout, la néerlandaise. Et Stéphane Houdet, lui, a perdu, battu par De La Puente. Tête de série numéro 3. Et puis les juniors aussi, on suit ça. Et on a vu deux matchs, on était ensemble. La victoire de Mathis Dominck, qui avait perdu à Carnac quelques jours avant face à Daniel Jatte, qui lui est tombé face à une tête de série, l'américain Kennedy.
Ouais, alors Kennedy, on savait que ce serait un gros morceau parce que c'est un garçon qui venait de faire finale dans un challenger en Floride, donc chez les grands. Et avec Arnaud, on est allé voir le match sur le cours Simone Mathieu. Alors c'est pas un grand gabarit, mais alors tennis assez extraordinaire, vitesse de balle prodigieuse, et on espère juste que Mathis Domingue va pouvoir prendre une revanche, enfin venger son copain. Les éventuelles retrouvailles, ce serait en demi-finale, mais la route est longue, hein, parce que je crois qu'il a un Brésilien éventuellement en quart. Et puis il reste aussi le petit Alexandrescu, naturalisé il y a peu, alors qu'il est roumain, donc ils vont tous les deux jouer leur huitième demain, je pense. Et puis bon, le dernier mot, il est pour Sarah, puisque ça ne s'arrange pas chez les juniors filles, puisque là, on a eu une terrible nouvelle, c'est que Daphné Mpetit-Péricard a été éliminée au deuxième tour.
Oui, et de manière assez sèche, hein, puisque il y a une bulle, pas deux.
Deux.
6-2, oui. 6-0, 6-0.
Voilà, c'est inquiétant, parce qu'on n'a pas de relève, même chez les juniors.
Oui, c'est démoralisant de savoir que effectivement la relève est pas au rendez-vous. Et puis, c'est aussi démoralisant parce que on attend des actes forts ou des réponses fortes au fait qu'il n'y ait pas de relève. Et pour l'instant, on n'en voit pas venir. En tout cas, on ne voit pas de grandes annonces pour essayer d'inverser la tendance dans le tennis féminin. Donc, c'est ça aussi qui est inquiétant. Quand on sait que pour amener une joueuse dans le top 100 mondial, il faut 10 ans, 10 années. Eh bien là, je pense que la traversée du désert, elle commence à être un petit peu longue.
C'est le Sahara, quoi.
Sahara,
c'est le désert du Sahara, quoi.
Sarah, j'ai l'impression que Sarah.
Non.
Est-ce que tu as l'impression qu'à la Fédé, on fait les mêmes efforts que pour les garçons?
Je n'arrive pas à voir quelles sont les grandes décisions parce qu'elles sont pas communiquées forcément. Mais le constat est que on a moins de joueuses. On l'a dit, hein. Je l'ai répété, c'était dans les grandes gueules du sport. Oui, c'est ça. Hein. Et on a été regardé. Mon premier relance en 93, on était 19 Françaises. Aujourd'hui, il n'y avait que, enfin cette année, que 4 Françaises qui rentraient par leur classement, plus les 6 wildcards. Donc on a donc 10 joueuses. Et donc on est dans ces chiffres-là. Donc quand on n'a pas la quantité, forcément, à un moment, les résultats, ils n'arrivent pas, quoi, véritablement. Donc oui, c'est inquiétant. Et il va falloir prendre des grandes décisions. Il va falloir trouver quand même, en tout cas, initier des choses pour inverser la tendance. Parce que ça ne va pas tomber du ciel. Hein.
Et c'est presque un manque de respect pour notre tennis féminin français et l'historique, parce que c'est lui qui nous a apporté les derniers chelems, tout simplement.
Exactement,
Marion, le dernier chelem ici, évidemment, Marie Pierce, les dernières finales à Roland-Garros.
Oui, et puis Amélie Mauresmo aussi. Donc on a eu des numéros 1 mondial, on a eu des titres de Masters. Finalement, on a eu des titres beaucoup plus élevés par le tennis féminin français que chez les hommes. Depuis la victoire de Yannick Noah, on a aussi des titres en Fed Cup. Et oui, c'est difficile.
Les Coupes Davis quand même, Sarah.
Et on a gagné des Fed Cup, hein. Oh, on va se calmer. Donc voilà. Et c'est vrai qu'il y a eu des meilleurs résultats du côté du tennis féminin français. Et malheureusement, aujourd'hui, on se demande où est la relève.
Merci, on finit avec une belle note d'optimisme. Allez, on se retrouve demain, évidemment, cours numéro 1, votre podcast tennis sur RMC, sur toutes les plateformes, en mode quotidienne pour Roland-Garros, cette quinzaine de folies. Et bien, on se retrouve demain. Salut Sarah, salut Eric, bonne nuit. Hein.
Bonne nuit à tous.
Quand vous en avez besoin. Bonne nuit Eric.
Bonne nuit, mais là on va se coucher tôt. Là.
Et puis bonjour aussi à tous ceux qui vont nous écouter ce matin. Il y en a peut-être qui auront la chance de nous écouter cette nuit. Et sinon, bon réveil et très bon mercredi.
Très bon mercredi à tous. On est perdus aussi, ciao.
RMC, cours numéro 1.